de midi sur Radio Orient. Merci de nous rejoindre. Nous sommes le mardi 30 juin. Le journal Nadia Bencher. À la une de cette édition mondiale 2026, le Maroc poursuit son aventure au terme d'un scénario hitchcockien. Les Lions de l'Atlas ont renversé cette nuit les Pays-Bas et valident leur ticket pour les huitièmes de finale. L'Iran et les États-Unis reprennent le chemin des discussions. Une nouvelle séquence de pourparlers de haut niveau qui se tiendra à Doha au Qatar. Au menu notamment le contrôle du détroit d'Ormuz. En France, la mobilisation se poursuit après la mort de la jeune Liana. Pour le quatrième lundi consécutif, des rassemblements ont eu lieu à l'appel de collectifs féministes et de défense des droits de l'enfant. Ce mardi, Gérald Darmanin présente à l'Assemblée nationale son projet de loi sur la justice criminelle, destiné notamment à accélérer le traitement des affaires les plus graves. Bonjour, quel suspense jusqu'au bout de la nuit. Au petit matin, le Maroc a décroché son billet pour les huitièmes de finale en éliminant les Pays-Bas au terme d'une séance de tir au but étouffante. Un match sous haute tension joué jusqu'à la dernière seconde où les Lions de l'Atlas ont affiché un sang-froid impressionnant. Pour le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi, cette victoire est aussi le fruit de préparations minutieuses face à un adversaire redoutable. On l'écoute.
C'est un dénouement incroyable. C'est mérité, c'est amplement mérité. Je pense qu'on a dominé complètement cette équipe. Je ne pense pas qu'ils aient souvent joué avec juste 30% de possession de balle. 70, on a eu beaucoup plus d'occasions, on a eu beaucoup plus de frappes. Même si c'est vrai que le rythme n'était pas toujours très très haut, mais c'était compliqué parce que le bloc était très bas. C'est clair qu'il a fallu qu'on soit patient parce qu'on savait aussi que sur les contre-attaques, mal. Donc il fallait jouer avec sa tête, il fallait chercher cette qualification. Et pour chercher cette qualification, il ne fallait pas juste montrer qu'on savait emballer les matchs, il fallait montrer qu'on avait aussi la tête, l'expérience pour contrôler ces matchs. Et quand on voit les jeunes joueurs qui sont entrés et ce qu'ils ont apporté, c'est bien. On grandit, on continue à grandir. Et le but, c'est de continuer encore à grandir dans cette compétition. Donc on va profiter aujourd'hui et vite se remobiliser pour le prochain match.
Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi et leurs yeux sont donc tournés vers leur match à venir contre le Canada. Le Maroc, tout comme le Paraguay, vainqueur cette nuit contre l'Allemagne, et le Brésil contre le Japon, s'avance vers les huitièmes de finale. Ce soir, c'est la France qui espère décrocher sa place au prochain stade de la compétition contre la Suède à 23h. Direction à présent le Moyen-Orient où les discussions sont attendues cette semaine à Doha entre représentants iraniens et américains dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient. Steve Witkoff est en route ce mardi pour le Qatar et selon un responsable américain, les deux camps ont décidé de cesser leurs attaques. Washington évoque des réunions de haut niveau tandis que Téhéran parle uniquement de rencontres techniques et exclut pour l'instant toute négociation directe. Les échanges portent notamment sur la mise en œuvre du protocole d'accord signé mi-juin pour mettre fin au conflit. Parallèlement, les tensions restent vives autour du détroit d'Ormuz où l'Iran maintient un contrôle renforcé du trafic maritime au risque de fragiliser la trêve conclue avec les États-Unis. Hier, le président français Emmanuel Macron et le sultan d'Oman, Haytham Ben Tariq, ont plaidé pour une navigation libre sans conditions ni restrictions et sont convenus de mener des opération conjointe de déminage, une initiative à laquelle Téhéran a répondu en appelant la France à ne pas compliquer davantage la situation. Gros plan justement sur ce protocole d'accord signé le 17 juin entre Washington et Téhéran. Un texte qui ouvre une perspective de désescalade après plus de 4 mois de guerre et qui a été signé à distance par les présidents américains et iraniens. Mais quelles sont les conditions pour transformer cette trêve fragile en paix durable? Élément de réponse avec Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe. On l'écoute.
Aujourd'hui, ce qui a été accordé, c'est un peu comme dans un business. Vous avez, quand vous devez faire une levée de fonds, vous commencez par signer un term sheet qui donne quelques grands points de l'accord qui sont très importants. Et ensuite, derrière, vous négociez avec vos investisseurs pour faire l'accord, la façon de vivre au quotidien, le term sheet qu'on avait décidé. Donc effectivement, on a certains points d'accord, mais dans ces points d'accord, il manque quand même la raison pour laquelle il y avait ce conflit, qui était la question du nucléaire en Iran et de la menace existentielle que l'Iran faisait porter sur Israël. De l'autre côté, il y a aussi une problématique que nous portons depuis très longtemps, qui est la question aussi des Palestiniens et de la possibilité d'avoir un État palestinien, puisque beaucoup considèrent aussi qu'on n'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas la solution à deux États, même si elle apparaît très complexe aujourd'hui à mener. Ceci étant, donc c'est pour ça qu'entre cet accord aujourd'hui qui est ce signature de term sheet et le fait de régler les problèmes de fond, on voit bien que le chemin va être encore très très long et il a fallu des décennies pour qu'on constate qu'on n'y est toujours pas parvenu, mais on voit bien que le conflit n'est pas la bonne solution. Donc effectivement, ce qu'il y a de bien avec cette démarche, c'est qu'au moins on arrête de faire parler les armes.
Et on comprend à travers votre propos, Monsieur le sénateur Olivier Cadic, qu'il y a des variables qui sont extérieures à cet accord.
Si on en est là, c'est parce que au départ, l'Iran menace l'existence même d'Israël et que Israël se sent sous tension. C'est son existence en tant que telle qui est menacée. Et donc, on comprend que les Israéliens soient dans une situation de dire qu'ils veulent, repousser l'étau et enlever des menaces existentielles. Ça, on peut le comprendre. De l'autre côté, effectivement, tous les autres partenaires de la zone veulent aussi trouver une solution à cette question palestinienne qui est toujours sur la table et que tout le monde doit régler tous ensemble pour pouvoir parvenir à la paix. C'était quand même la vision à une époque des accords d'Oslo, donc d'aller dans cette direction. Donc c'est l'objectif final et c'est ce que porte la France avec cette volonté de solution à deux États pour pouvoir effectivement régler définitivement les problèmes, faire le respect d'un État d'Israël qui puisse vivre en paix et en harmonie avec ses voisins.
Olivier Cadic, sénateur des Français établis hors de France et président du groupe d'amitié interparlementaire France-Pays du Golfe. Il sera l'invité de Pluriel ce soir à 19h, une émission présentée par François-Xavier de Calonne. Dans les territoires palestiniens, les violences se poursuivent malgré la trêve en vigueur à Gaza. 5 personnes ont été tuées lundi dans des frappes israéliennes selon les secours palestiniens. 3 victimes ont été recensées à Deir el-Balah dans le centre de l'enclave et 2 autres à Khan Younes dans le sud. L'armée israélienne affirme avoir visé des combattants djihadistes. Et pendant ce temps, la situation continue également de se dégrader en Cisjordanie occupée. Un adolescent palestinien de 15 ans a été tué lundi lors d'une opération de l'armée israélienne près de Ramallah. Un drame qui intervient alors que l'ONU tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme dans un rapport publié lundi. Antonio Guterres dénonce l'expansion continue des colonies israéliennes et une aggravation de la situation sur le terrain. Les explications de Clara Dubanchet.
Au-delà du drame de lundi, c'est l'évolution générale de la Cisjordanie qui inquiète de plus en plus la communauté internationale. Dans son dernier rapport, le secrétaire général des Nations Unies décrit une dynamique qui, selon lui, fragilise davantage les perspectives de paix. Antonio Guterres pointe notamment l'extension des colonies israéliennes, la multiplication des avant-postes et l'augmentation des violences liées aux colons. L'ONU estime que ces développements renforcent l'occupation du territoire et compromettent un peu plus la perspective d'un État palestinien viable et souverain. Autre sujet de préoccupation, les déplacements de population. Les Nations Unies évoquent une situation sans précédent. Depuis près de 60 ans, les communautés palestiniennes sont contraintes de quitter leurs terres sous l'effet combiné des opérations de sécurité, des démolitions et des restrictions d'accès. Et cette inquiétude est également partagée par plusieurs pays européens membres du Conseil de sécurité. La France, le Royaume-Uni, le Danemark, la Grèce et la Lettonie ont appelé Israël à mettre un terme à l'expansion des colonies et à lutter contre les violences commises par des colons. Autant de signaux qui témoignent d'une détérioration continue de la situation en Cisjordanie, alors que la guerre à Gaza continue de peser sur l'ensemble de la région.
Merci Clara pour ces précisions. Au Liban, le président Joseph Aoun a réaffirmé sa volonté de renforcer l'autorité de l'État à l'approche de la mise en œuvre de l'accord cadre destiné à mettre fin à la guerre. Lors d'un entretien avec le commandant de l'armée, il a insisté sur la nécessité de préserver la stabilité du pays et de consolider le rôle des institutions dans la période à venir. Dans le reste de l'actualité, la Russie affirme avoir intercepté 419 drones ukrainiens au cours de la nuit dans plusieurs régions du pays, dont celle de Moscou. Selon les autorités russes, un bébé de 6 mois a été tué lorsqu'un drone est tombé sur une habitation dans la région de la capitale. 3 autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Le bilan des séismes qui ont frappé le Venezuela s'alourdit à au moins 1719 morts. Selon les autorités, quelques 50 000 personnes sont toujours portées disparues. Les États-Unis ont renforcé leur aide humanitaire et déployé des moyens militaires pour soutenir leur aide humanitaire et déployé des moyens militaires pour soutenir les opérations de secours dans les zones les plus touchées. En France, près de 88 000 plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont actuellement réexaminées par les services d'enquête, a annoncé Gérald Darmanin. Le garde des Sceaux précise que plus de 7 400 dossiers concernent des crimes dont l'auteur présumé est identifié. Un premier bilan de ce vaste réexamen des procédures doit être présenté le 14 juillet. Gérald Darmanin qui défend à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale son projet de loi sur la justice criminelle. Le texte vise à réduire les délais de jugement des affaires les plus graves. Le ministre a toutefois retiré sa mesure la plus contestée, le plaidé coupable criminel, après son rejet en commission et la mobilisation des magistrats et des avocats. Et hier, pour le 4e lundi consécutif depuis la mort de Liana, la mobilisation se poursuit en France. Un mouvement à l'appel de la coalition féministe et infantiste. Elle demande une loi intégrale contre les violences sexuelles. Radio Orient était présente hier soir au rassemblement de la place Vendôme devant le ministère de la Justice. Parmi les personnalités présentes, la comédienne Eva Darlan, très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On l'écoute.
Vous savez, des lois cadres, on en demande depuis 10 ans. La première fois que personnellement, j'ai fait partie d'un mouvement qui demandait une loi cadre contre les violences sexistes et sexuelles, c'était sous Hollande, donc vous imaginez, c'était au moment de l'affaire Jacqueline Sauvage. Et puis après, voilà, tout s'est dilué, on se rend bien compte, les années passant, n'ayant jamais rien obtenu, que les gouvernements successifs n'en ont rien à battre. À tel point des femmes et des enfants et des maltraitances et des viols et des féminicides et des pédocriminels et voilà. Tout ça, ça ne les intéresse pas. Aucune avancée n'a été faite, aucun respect n'a été démontré. Et il se trouve que cet enfant, cette martyre abominable a percuté en même temps Patrick Bruel, et avec la force des parents et la force de Flavie Flamand et la force de tout d'un coup toute une population s'est soulevée. Ça, à ce point-là, ça n'était jamais arrivé. Et à ce point-là, je n'ai jamais vu autant d'hommes dans des manifestations.
La comédienne Eva Darlan au micro de François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Raymond Jouan. Prochain rendez-vous de l'info, le journal en langue arabe à 12h30. Excellente écoute sur Radio Orient.